Nous sommes en direct de Fréquence Mistral pour une toute nouvelle émission sur notre antenne. Donc on va faire connaissance avec Ronald Bustamante qui est donc venu nous parler de l'Amérique latine et de cette association qui existe depuis quelques années qui s'appelle Amérique latine, culture et liberté fondamentale. Bonjour Ronald.
Bonjour Dylan.
Bienvenue dans notre studio. On va donc expliquer votre parcours, si on peut dire ça comme ça, et qu'est-ce qui vous a donné envie de créer cette association, et quelle est cette association?
Oui, en premier lieu, je veux remercier à la radio, et surtout à Odile, de m'avoir invité, de pouvoir exprimer et une information qui me tient à cœur, c'est les événements récents au Pérou. Alors que j'étais à Digne il y a quelques années, j'étais à Digne avec ma famille, et on avait fondé, organisé l'association qui à l'époque s'appelait Casa Latina 04. On a participé pour signaler un événement à la fois de la lavande, le Pérou était le pays invité. Il y a eu la participation d'artistes qui sont venus du Pérou et puis aussi du monde latino-américain de la région qui participait à l'économie avec la vente d'artisanat, des produits latino-américains et surtout péruviens. Et puis j'étais aussi intervenant à l'IUT, je faisais les cours d'espagnol, et à l'UPRO, à l'Université Populaire Rurale Ouverte. Et je m'occupais de l'informatique et quelque chose que je tiens en très très bon souvenir, c'est d'avoir fait des cours d'informatique à la ferme chez les agriculteurs. Peut-être en ce moment il y a des agriculteurs avec qui je travaillais et ils écoutent la radio. Donc c'est un souvenir d'un travail qui à la fois on a lu pour apporter un service de formation, et à la fois pour moi c'était la convivialité, la connaissance et le travail sur place, sur mesure, qui m'a fait beaucoup d'amis, d'expérience et connaissance aussi du monde agricole, puisque ma formation d'origine au Pérou c'est ingénieur agronome. Voilà.
Vous avez créé cette association?
Oui, on avait créé l'association. C'était de promouvoir, de faire connaître l'Amérique latine, transmettre, partager ses connaissances, disons, nos vécus avec d'autres latino-américains. Il y avait une amie brésilienne, Christiane, et il y avait une amie aussi colombienne, et puis d'autres amis français. On était un petit groupe de 5-6 personnes qui animaient cette association. Bon, les années sont passées, moi-même j'ai déménagé, je suis maintenant dans la Drôme, près de la ville de Cré, qui est aussi liée à la ville de Valence. Les autres personnes ont déménagé aussi d'autres endroits. Mais pour faire vivre cette association, on s'est contacté avec des latino-américains qui sont à Madrid, qui a une population latino-américaine beaucoup plus grande, et aussi à Rome. Nous, on dit que rien que des Péruviens, on est 3 millions, 3 millions de citoyens et citoyennes péruviennes qui nous sont en dehors du pays, qui est éparpillés un peu partout. Voilà.
Alors aujourd'hui, vous allez nous parler du Pérou, parce que ça ne va pas fort au Pérou, bien sûr.
Oui, en effet, et depuis un mois, parce qu'il y a eu un coup d'État, mais les coups d'État d'aujourd'hui sont... Ils ont une particularité, ils sont bien déguisés, bien enveloppés. Et sur la question légale, le Parlement, l'Assemblée nationale, qui est dominée par l'ultra-droite, avait préparé les coups d'État et voulait remplacer, faire chasser ce président Pedro Castillo, qui pour la première fois c'était un président issu du milieu populaire, et un instituteur de campagne. Et lui-même agriculteur, et qui a été élu en 2021. Donc, du premier jour, ils ont essayé de le chasser du gouvernement, parce qu'il avait un autre programme, il faisait écho ce que la population demandait, c'est un changement de constitution. Parce que la constitution qui se maintient jusqu'à aujourd'hui, c'est une constitution de tous les points de vue, fait pour les grosses entreprises multinationales qui arrivent à, pour donner toutes les facilités, toutes les mesures pour l'extraction des matières premières. Mmh. Et cette extraction des matières va rentrer en conflit avec la population qui habite justement ces territoires, etc., dans lesquels les entreprises s'installent. Et donc, les derniers 10, même 20 ans, c'était conflit, terrible conflit avec ces entreprises. Donc, Castillo, il avait cette proposition de changement de constitution. La population a voté pour lui et il a gagné les élections justement parce que avec ses soutiens de la population. Mais le 7 décembre 2022, donc un mois et quelques jours, il y a eu le coup d'État. C'est-à-dire que les conflits avec l'ultra-droite s'étaient envenimés, c'était dur. Et puis il a eu des expressions à la télévision et à la radio qui ont fait que l'Assemblée nationale dominée par l'ultra-droite demande l'incarcération, alors que lui, il était déjà prisonnier. Mais d'abord, il était prisonnier, mais l'Assemblée nationale, quelques heures après, demande son limogeage. Excusez-moi, les Français, malgré les années que je suis en France, j'ai encore quelques problèmes. Voilà, donc le coup d'État s'est réalisé, ce qui, à la population, était perçu par la population, d'abord comme un abus, et deuxième chose, comme un coup d'État pour maintenir la constitution actuelle. Et donc, il y a eu des contestations un peu partout le pays, et dans toute la région, une contestation qui grandissait et qui grandit de plus en plus, et qui a été répondu par un état de siège et par une mise en état d'urgence. Et quand on dit état d'urgence, ça veut dire que c'est l'armée qui prend le contrôle de la situation. Et donc les morts ont commencé, d'abord en Andahuaylas, ensuite c'était Ayacucho, et d'abord c'était 5 morts, ensuite c'était s'élevé à 15, et depuis 3 jours, la dernière tuerie dont j'ai connaissance, ça a été dans le sud du Pérou, dans la région dans laquelle je suis originaire, la région de Puno. C'est le plateau à 3800 mètres, frontière avec la Bolivie. Et ils ont tué 17 personnes dans le même jour. Et quelque chose qui montre que cette intention del type de violence, c'est que les médecins, il y a une interview, un médecin de l'hôpital de Juliaca à Puno, dit et constate que les trous des balles, ils ont un trou d'entrée mais pas de sortie. Ce qui nous amène à penser que c'était utilisé des projectiles qui rentrent et qui explosent à l'intérieur pour faire énormément de dégâts instantanés. Donc, pourquoi on demande une nouvelle constitution et pourquoi il y a ces rejets de l'Assemblée nationale dominée par l'ultra-droite? Parce que une nouvelle constitution signifie la demande, c'est de faire que cette constitution nouvelle puisse mettre les centres de l'importance pour le développement du pays, pour développer l'éducation, la santé, l'activité, une activité industrielle pour fournir justement les éléments nécessaires au développement d'une agriculture durable, qu'on laisse de la pollution, de polluer ces entreprises, qu'on arrête de chasser la population de toutes ces zones qui sont revendiquées comme zones d'extraction minière, pétrolière, etc., et surtout l'Amazonie. Parce que l'Amazonie, c'est 2/3 l'Amazonie péruvienne, parce que l'Amazonie, c'est le Brésil, il y a la Bolivie, il y a même la France qui a une partie d'Amazonie, Guyane, tout ça. Mais le territoire amazonien, c'est En ce qui est péruvien, 782 000 km². Tandis que la France, pour avoir une idée, la France fait tous les territoires continentaux plus les territoires d'outre-mer, tout entier fait 632 000 km². Alors, ça fait, disons, ça montre l'étendue de ces territoires amazoniens dans lesquels il y a la population, parce qu'en général, on essaie de parler de l'Amazonie comme si il n'y aurait que la forêt, des animaux, des insectes, etc. Il y a une population qui habite là.
Et oui, qui est chassée.
Et qui est une population qui, avec cette constitution, est chassée. Donc, la population amazonienne se bat, justement, tous les peuples amazoniens, ils ont organisé des fédérations et tout ça, pour faire reconnaître leur droit au territoire. Avec une loi, ils ont reconnu le droit à la communauté. Que la différence, c'est que communauté, ça veut dire que les terrains agricoles, mais le reste, on ne tient pas compte du territoire. Seulement les terres agricoles qui ont été... Et encore, pour faire reconnaître ces droits, il faut faire tout un tas de démarches qui durent des années, tandis que pour les entreprises qui vont s'installer en Amazonie, les démarches sont rapides, sont extrêmement rapides. Du coup, les populations se trouvent avec ça. Et pourquoi ils sont intéressés pour de la déforestation, pour brûler la forêt, et comme ça, c'est plus vite, ça laisse vite utiliser des machines pour la déforestation, et ensuite pour la culture, pour des cultures d'exportation, le riz, les soja, la palme huile, et puis pour mettre du bétail qu'ils vont vendre à McDonald's pour la viande, etc. Donc, toute cette situation fait que la population exige une nouvelle constitution. Pour les populations des montagnes, là où il y a les mines, c'est pareil. C'est-à-dire, du jour au lendemain, la population se trouve avec une entreprise qui est en train de faire des mesures. Et ensuite, vient le forage, vient les machines pour faire l'exploitation à ciel ouvert. La loi exige qu'il y ait une consultation préalable parce que c'est une convention avec les Nations Unies, avec les droits de l'homme des Nations Unies, la consultation préalable des peuples et que les peuples puissent exprimer son accord ou non, consultation. Mais tout ça, c'est finalement, parfois la consultation, c'est une enquête. On ne sait pas où cette enquête est déposée, mais ce n'est pas la consultation réelle. La population exprime son désaccord à la fin avec des manifestations, ils bloquent des routes, avec tous les moyens possibles. Et en réponse, l'État, il envoie la police, il envoie l'armée, et donc il y a des morts, il y a des blessés, et en plus les dirigeants de ces territoires sont, au niveau légal, sont accusés de terrorisme, de former des bandes de délinquance délictive, et parce que d'après ces lois, deux ou plus personnes peuvent constituer une bande de malfaiteurs. Et pour eux, la population qui est organisée et qui n'est pas exprimée son désaccord, c'est de cataloguer des malfaiteurs. Alors que, comme je disais, ces mines, ça signifie exploitation à ciel ouvert, et donc rentrent les machines, les mines s'installent, utilisent les sources d'eau des agriculteurs. Ensuite, ils vont déverser les eaux contaminées avec des produits chimiques qu'utilisent les mines. Et puis, ils vont polluer l'air parce qu'il y a des camions qui passent sans arrêt. J'imagine pas, par exemple, si Digne, c'est une belle ville très touristique et tout ça. Mais si vous avez des centaines de camions de mines qui passeraient ici par la Durance, évidemment, il y aurait des dégâts,
la pollution,
la poussière et tout ça, la déconfiguration de toute cette situation. Alors qu'il y avait des agriculteurs qui travaillaient aussi dans le tourisme, dans la réception touristique. Et donc, ils chassent la population, l'agriculture est plus possible, le bétail ne peut plus boire les eaux qu'utilisait avant, et donc il y a eu des manifestations, il y a eu des contestations à cette politique. Pourquoi aujourd'hui elle est forte? Parce qu'avant, c'était des manifestations et des contestations localisées dans un endroit ou un autre, mais maintenant, c'est une contestation, une protestation générale qui va de l'Amazonie, qui va dans les montagnes, dans les zones côtières. La population, et une bonne partie de la population, s'est serrée les coudes
pour se rebeller
à cette politique. Et les plus dramatiques, c'est qu'on est déjà à 40 morts. Mmh. Et l'État n'a pas l'intention d'essayer de trouver une solution, vu la contestation, de trouver une solution, de dialoguer. C'est une situation préoccupante. Et hier, je consultais par Internet les titres sur les informations du Pérou. Il parlait qu'il y aurait eu un tribunal qui accuse la présidente de la République actuelle de génocide. Mmh. Peut-être le terme est un peu fort, mais c'est une massacre. Et ça, on ne peut pas la contester. Parce qu'en plus des morts, il y a tous les blessés. Il y a toutes les personnes qui ont perdu l'œil. Et les droits à être soignés, à être rétablis, à l'handicap causé, tout ça. Parce que la loi aussi, la loi signale qu'il n'y a pas de responsabilité pénale pour les forces de l'ordre ou pour la police ou les militaires qui causent des blessés ou des morts, non, dans le cadre de leurs fonctions. Mm-hmm. Alors c'est l'impunité totale. Non, voilà ce que je voulais dire. Aussi, peut-être si tu veux me dire, signaler qu'aux Nations Unies, il y a tout un tas de droits fondamentaux et libertés fondamentales qui sont signalés, que le Pérou, l'État péruvien, a signé. Non, je voudrais citer seulement l'article 8 des droits des peuples indigènes. Ils disent, les États trouveront le mécanisme pour la prévention d'éviter que tout acte qui est pour objet, aux conséquences, déposséder ces terres et territoires et ressources à la population. Non? Il y a une autre, le paragraphe B de l'article 8 dit aussi éviter toute forme de délocalisation forcée de la population qui est pour objet la non-reconnaissance de ces droits, droit à la terre, droit à l'ambiance et tout ça. L'article 10 dit « Les peuples indigènes ne seront déplacés par la force de leur terre au territoire. » Et c'est justement ce qui se passe en Amazonie et même dans les Andes, parce que les populations qui sont les plus touchées sont les populations quechua, aymara. C'est les mêmes populations qui ont été touchées par l'invasion espagnole il y a 500 ans. Il y a eu la République, la déclaration de l'indépendance et la République, mais c'est une élite qui a pris le pouvoir et qui a reproduit les mêmes systèmes d'oppression et d'exploitation qui continuent jusqu'à aujourd'hui. C'est une des raisons pour laquelle le peuple réclame une nouvelle constitution, mais une constitution qui soit une assemblée constituante, avec la participation des gens, des peuples qui pour concevoir des mesures politiques, économiques en fonction du développement culturel, social du pays, pas en fonction des intérêts économiques, financiers des grosses multinationales. Voilà, dis-le, qu'est-ce que je voulais dire.
Ronald Bustamante, merci donc pour nous éclairer un peu sur la situation au Pérou actuellement.
Je vous tiendrai au courant dans les jours qui suivent, parce que ce n'est pas terminé la situation actuelle. Je demande aux auditeurs, auditrices, aussi d'exprimer par les moyens qu'ils puissent tenir. Je vais laisser aussi notre adresse mail et téléphone pour leur solidarité, parce que faire parvenir la solidarité à ce peuple, même une solidarité exprimée oralement, qu'on puisse l'enregistrer et tout, ce sera toujours la bienvenue. Et puis, je me tiens à votre disposition, je insiste encore sur... Je remercie cette possibilité qui nous donne à notre association, et puis que dans les deux mois qui viennent, on pourrait faire aussi des émissions sur d'autres pays d'Amérique latine, sur la culture. Et merci pour avoir mis les Condor Pass, parce que c'est presque l'hymne national pour les Pérou. Merci beaucoup.
Est-ce que vous nous donnez l'adresse mail où on l'écrira sur le podcast?
Vous voulez. Oui, je vais le donner. Oui. Si vous pouvez le mettre sur le podcast. C'est americalatine.culturelibertad. Fondamentale.
En fait, l'adresse mail, c'est CLF.
CLF.
C'est ça. Hein, voilà.
americalatine.clf@gmail.com. Et si vous souhaitez envoyer un message aussi, il y a un téléphone. 06 43 15 21 98.
Merci.
Et mon nom, c'est, on l'a dit, Ronald Bustamante.
Merci, à bientôt.
Merci, à bientôt.
Au revoir. Merci.